Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de Bruno Favel pour échanger à propos du patrimoine, car là est votre cœur de métier. Vous êtes haut fonctionnaire au ministère de la Culture et de la Communication et chef dans le cadre de la Direction Générale des Patrimoines du département des Affaires Européennes et Internationales. Bruno Favel, bonjour.
Bonjour.
Nous nous connaissons bien car votre institution a soutenu dès ses débuts un projet de restauration de mosaïques que je portais avec d'autres confrères dans le sud-est de la Turquie, dans la région de Torabdin. Voilà, nous en parlerons peut-être un petit peu. Et c'est là, c'est au cours de ces rencontres, au cours de ces démarches que j'ai découvert que la France disposait de moyens, certes importants, faibles. Voilà, nous verrons un petit peu les détails. Pour la sauvegarde du patrimoine à l'étranger, vous avez vu mon hésitation.
Absolument.
Un métier passionnant, un métier qui demande une ouverture au monde, un métier, enfin, dans lequel vous vous investissez avec âme. Et c'est là peut-être le plus important de nos jours. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail de votre profession, je suis curieux de vos racines, de votre spiritualité.
Alors, mes racines... Je suis né à Lyon, ville dédiée à Marie, culte marial, d'une maman arménienne née en France en 1931, qui s'appelle Silalpitos Magian. Mes grands-parents arméniens s'appelaient Baïdzar, ma grand-mère, et mon grand-père s'appelait Sarkis Vahan Tosmadjian. Du moins, c'était leur identité officielle, puisque... Après le génocide, beaucoup d'Arméniens avaient dû, enfants orphelins, prendre d'autres noms. Alors, d'où venait-il ? Ce qui, chez moi, est important, ce besoin d'Orient, vous l'avez compris. Il venait de Sébaste, pour mon grand-père, qui est dans les montagnes de Turquie actuelle, et pour mes grands-mères, qui, elles, ont survécu en plus grand nombre, puisque trois générations de femmes sont venues en France en 1920, à Adana, qui est un port, en Turquie toujours. Mes grands-mères sont parties vers l'Est, sont passées en Syrie, au Liban, ont été sauvées par des Arabes. Elles ont abouti à Beyrouth, où elles ont survécu pendant plusieurs années dans des camps avec un passeport Nansen qui leur a été attribué par la suite. Et mon grand-père a erré sur les routes d'Anatolie avec des bandes de gosses qui ont été recueillies par des marins à Smyrne, avant que Smyrne ne soit complètement détruite en 1922, et a été transféré en Grèce, où il a survécu tant bien que mal. Et ensuite, il est venu par des moyens assez compliqués en France, en traversant une Europe pratiquement en guerre, en Bulgarie, en Roumanie d'ailleurs, Bulgares et Roumains ayant été très solidaires des Arméniens. Les souverains de l'époque donnant des ordres pour que la population ne maltraite pas les enfants qui étaient recueillis. Et puis ils sont arrivés, mes grands-parents, l'un par la route de l'Italie et l'autre par un bateau à Marseille. Ils se sont connus dans la Drôme, où ils se sont mariés, et ont vécu ensuite dans une ville à côté de Lyon, où tous les Arméniens se sont regroupés à côté d'usines, qui étaient des Sines, où il y a d'ailleurs une maison de la mémoire arménienne. Donc, j'avais des grands-parents arméniens.
Vous avez grandi dans cette petite
pas
ville ?
Pas du tout. J'avais donc des grands-parents arméniens de rite apostolique grégorien. Et j'avais des grands-parents français. Mon grand-père Julien, soldat de la guerre de 14-18 et de 39-45. Et ma grand-mère Laurence, qui étaient des personnes nées au 19e siècle, puisqu'ils ont eu mon papa très tard. Et je dois dire que cette double culture, cette double appartenance, ils vivaient aux confins de la Saône-et-Loire, mes grands-parents, Laurence et Julien, et m'ont appris à avoir à la fois une double appartenance spirituelle catholique romaine, mais aussi grégorienne apostolique pour mes grands-parents arméniens. Petite anecdote, si je puis me permettre, ma maman, le jour où elle a dû être baptisée, l'église arménienne avait brûlé à Décines. Donc, on a baptisé les enfants à l'église catholique romaine. Donc, vous voyez, l'interpénétration, l'inter-religiosité a toujours existé, y compris dans les années 30, dans ces foyers de regroupement où des Polonais, des Italiens, des Kalmouks, des Russes blancs, des Allemands, et aussi exilés, chassés par le nazisme, se retrouvaient.
Alors, je parlais d'ouverture au monde dans ma présentation. Cette dualité, forcément, interpelle peut-être le jeune homme que vous étiez.
Oui, au début, ça me paraissait bizarre quand j'étais très enfant d'aller dans un endroit où il y avait des champs de roses, où on faisait de la confiture de roses, d'abricots, d'une façon très particulière, des racines, des odeurs culinaires avec des épices, des feuilles de vigne farcies, et d'aller d'un autre côté dans une région où on mangeait plutôt des noisettes ou des quenelles lyonnaises. Donc déjà par la cuisine, il y avait des choses très différentes chez mes grands-parents, donc il y avait une singularité. Et puis, je dois dire que mes grands-parents parlaient d'un passé révolu, qui avait été brillant, visiblement, et ils avaient dû s'habituer à des conditions de vie beaucoup très dures, et recommencer à zéro leur vie, en ayant perdu 90% de leur famille.
Donc cette enfance particulière, avec des grands-parents singuliers, c'est déjà une forme de vision qui tend à s'intéresser au patrimoine, qui tend à s'intéresser à l'histoire pour l'enfant que vous étiez.
Ah mais complètement, elle est purement, dès le départ, elle est patrimoniale. C'est-à-dire, on parle de génocide, on parle de massacre, on parle d'histoire, de monuments détruits, de caravansérailles, de mosquées, de synagogues, d'églises chrétiennes. On parle aussi de 14-18, de 39-45. Et puis je vis aussi dans un village qui s'appelle Saint-Cyr au Mont-d'Or, au pied d'un clocher. Et au pied, surtout, d'un donjon du Moyen-Âge. Donc, finalement, c'était prédestiné, je ne pouvais que tomber ensuite dans une vision patrimoniale de la vie, mais une vision qui a évolué au fil du temps, qui est maintenant joyeuse, parce que la vision, je dirais que j'avais quand même de ce passé arménien, était quand même très douloureux. Maintenant, c'est beaucoup plus, je dirais, apaisé, beaucoup plus...
Qu'est-ce qui compte ? C'est le temps, c'est les lectures, c'est le pardon,
temps,
peut-être ?
Le pardon, les lectures, et puis se dire aussi que si des Arméniens ont survécu, c'est qu'il y a eu forcément des Turcs pour les aider. Il y a certainement eu des Turcs justes, ce qu'on appelle des justes, pour les aider.
Et vous parliez d'arabes tout à l'heure, vous pensez peut-être à ces bédouins de Syrie ?
Et les bédouins de Syrie, bien sûr, et des marchands arabes et des gens qui ont recueilli, comme ils le pouvaient, des millions de réfugiés. Parce qu'en 1915-1918, la région est exactement affluée à sang comme l'heure actuelle. C'est-à-dire on peut faire un parallèle à ce qui se passait en 1915 à ce qui se passe maintenant en Irak, Syrie, aux confins du Liban et de la Jordanie.
Alors venons dans la question du patrimoine, qui est le cœur de votre métier, comme nous le disions. Les gens peuvent se poser la question, les civils meurent, et on s'intéresse, nous, aux pierres. Comment vous répondez à ce genre de parallèle un peu hasardeux ?
Pour qu'il y ait une double lecture. On s'est aperçu que dans la sauvegarde du patrimoine, que ce soit au Mali ou en Irak, les communautés jouent un grand rôle. En Irak, ce sont les communautés qui ont emporté les manuscrits. Au Mali, ce sont aussi les communautés qui ont caché les manuscrits de Tombouctou. Si maintenant, à Erbil, il y a des manuscrits, c'est que des populations s'en sont occupées. Je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture. En Afghanistan, ce sont par exemple les Hazaras qui ont résisté tant qu'ils pouvaient aux talibans pour sauvegarder les Bouddhas de Bamiyan. Donc, minorité mongole qui est convertie à l'islam, mais qui a toujours gardé les Bouddhas de Bamiyan depuis fort longtemps, alors que ce n'appartient absolument pas à leur culte. Donc, se sentir solidaire d'un patrimoine pour pouvoir le défendre. Donc, ça veut dire que la communauté internationale, les ministères, les institutions se soucient aussi des populations. En ce moment, notamment, je pense à une population qu'il faut absolument aider, qui n'a pas un patrimoine physique et bâti. C'est la communauté yézidi. Les yézidis, je rappelle à nos auditeurs, qui ont sauvé tant d'Arméniens en 1915 du génocide sans se soucier de savoir s'ils étaient chrétiens, de quel rite. Ces yézidis méritent respect. Ce sont des gens qui souffrent, réfugiés à Erbil pour ceux qui ne sont pas morts, ou vendu au marché à Mossoul comme certaines femmes et enfants ou des vieillards massacrés. Là, vraiment, je pense que la communauté internationale, pour les yézidis zoroastriens, qui croient en Merved, on peut les rattacher à une sorte de zoroastrisme. Il faut les aider. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à l'autre. Je pense que ça fait partie de la compassion chrétienne et les chrétiens doivent se sentir solidaires des minorités yézidis.
Donc quand vous défendez un projet, quand vous vous investissez sur une sauvegarde à l'étranger ou dans d'autres domaines, hein, vous avez de nombreuses activités, vous avez cette conscience en vous.
Dès le départ au Cambodge, après le génocide khmer, notre ministère a reformé avec l'aide des affaires étrangères.
Donc le ministère de la Culture, il faut préciser, voilà.
Absolument. A reformé une génération d'architectes, de conservateurs, qui a maintenant 27, 28, 29 ans. En 91, jusqu'à maintenant, on a formé à peu près 300 professionnels qui sont capables de prendre soin de leur propre patrimoine. Donc ça fait partie intégrante. La chose, il y a de moins en moins, d'ailleurs, je vais être très franc, il y a de moins en moins d'archéologues qui ne parlent que de vieilles pierres. Tous ont à cœur d'avoir un souci d'intégrer les populations autour et puis de proposer aussi des plans de formation ou des choses comme ça. Ça, c'est une vision, moi, je pense, qui est un peu dépassée maintenant. Mais néanmoins, vous avez raison, il faut toujours le rappeler.
Il faut le rappeler, parce que les gens ne le savent pas. L'archéologue arrive, se sert et s'en va. Je veux dire, c'est toujours ce que l'on croit. Donc cette activité patrimoniale est très importante dans votre direction.
Absolument. Et l'insertion des communautés dans le processus de développement patrimonial et l'attractivité patrimoniale. Et puis aussi de proposer des plans de formation. Moi, je crois beaucoup à la formation. Que ça soit sur place ou en France, il faut former les jeunes professionnels. C'est indispensable. Les jeunes irakiens, les jeunes... On a formé, par exemple, à Gaza... quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Fadel Alotol, qui est un petit tailleur de pierre, qui est devenu archéologue et qui s'occupe des mosaïques en plein territoire Hamas, qu'il laisse faire d'ailleurs, des fresques de Saint-Hilarion, qui sont des fresques et mosaïques du 5e siècle.
Qui sont magnifiques.
Et qui sont extraordinaires.
Alors quand nous préparions cette émission, vous m'avez dit très, très spontanément, il faut que je parle de Stefan Zweig.
Oui, parce que Stefan Zweig, c'était un... vous savez que c'est l'écrivain le plus lu en France, parmi les auteurs étrangers, encore maintenant, en termes de vente. Immense écrivain autrichien. J'ai vécu à Salzbourg, j'ai dirigé l'Institut français de Salzbourg, et à Salzbourg, que mes amis autrichiens ne le prennent pas mal, mais il n'y avait aucune mention. On parlait de Mozart sans arrêt, mais le grand oublié, c'était Stefan Zweig, et aussi Max Reinhardt. Tout le monde connaît le film The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur. On voit la maison de Max Reinhardt, mais personne ne sait que Max Reinhardt a vécu là. Et Stefan Zweig, c'est un peu la même chose, grand oubli. En ce moment, ce qui se passe en Europe, ces flux de réfugiés me font penser bien sûr aux déportés de 1915 qui finissaient morts dans les déserts de Deir ez-Zor, mais me font penser à ces... milliers de juifs qui essayaient désespérément d'avoir des visas dans des ambassades, qu'ils soient célèbres ou anonymes. Et Stefan Zweig, on voit peu à peu, écrivant ses biographies, Marie-Antoinette, Balzac, donc vraiment de culture purement européenne, finir ses jours à Pétropolis. C'est pas innocent, lieu patrimonial construit par un Habsbourg.
Au Brésil. Hein.
Au Brésil. Et Stefan Zweig mettant fin à ses jours avec son épouse en 1942, protestant ainsi de la situation désastreuse de l'Europe et du monde qui était rentrée en guerre. Le président Vargas d'ailleurs lui rendra hommage, paradoxal. Et Stefan Zweig me rappelle toujours que les intellectuels doivent témoigner d'une situation, pas forcément pour, on est dimanche matin, pas forcément pour finir avec un suicide, parce que c'est contraire aux principes chrétiens, mais quand même de témoigner dans l'indifférence généralisée du monde de 42, où on savait ce qui se passait sur l'extermination des juifs, mais personne ne faisait rien. Et je fais un parallèle d'ailleurs avec les yézidis, si vous me permettez.
Alors revenons sur l'action publique, sur l'esprit de l'action publique qui nous conduit à avoir cet échange ce matin. L'action publique qui a du sens, j'aimerais dire, une conscience peut-être. Quand on vous écoute, on sent qu'il n'y a aucune décision qui n'est prise à la légère. Est-ce que vous êtes plusieurs comme ça? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'espoir? Ou est-ce que vous vous sentez parfois un peu seul?
On ne se sent pas seul parce que nous avons créé entre nous une grande communauté, que ce soit aux affaires étrangères, sur les postes, sur place. Les scientifiques nous aident beaucoup, et puis des personnes privées nous écrivent, nous racontent, nous disent. Donc finalement, dans tous les pays, que ce soit victime de séismes, il y en a beaucoup. La Birmanie vient d'avoir un terrible tremblement de terre à Pagan. L'Italie vient d'être frappée à Matrice. Des conflits en Libye, au Yémen, ou encore en Afrique, en ce moment il y a une guerre civile qui a commencé au Gabon, nous laissent penser, nous avons nos correspondants sur place qui nous disent qu'est-ce qu'on fait ? Aidez-nous. Et du fait des échanges scientifiques tissés et techniques depuis très nombreuses années, nous arrivons à essayer de répondre à la demande, soit de les faire venir en France, soit d'aller, dès que les conditions de post-conflit le permettent, d'aller travailler avec eux pour des diagnostics, pour des remontages de temples, pour des sauvegardes de mosquées, d'églises, de synagogues ou de patrimoine purement civil. Parce qu'il n'y a pas que le patrimoine religieux, il y a aussi le patrimoine civil du XXe siècle. Par exemple, le stade de Bagdad, les gens l'ont oublié, mais a été construit selon des plans de Le Corbusier. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait universel. Donc on n'est pas si seul que ça. C'est surtout la solitude, elle vient peut-être que parfois, nous ne sommes pas toujours relayés au niveau, et ça commence à changer, on voit de plus en plus de documentaires, que ce soit sur Arte ou bien sûr France Culture, qui est là pour diffuser le savoir et mieux faire partager la connaissance. On est aidé, mais le grand public n'a pas toujours accès à ces informations et pense à tort d'ailleurs très souvent que on ne fait pas grand-chose, on fait. Et puis je rappelle aussi le rôle de l'UNESCO qui est quand même très important puisqu'on a une directrice générale Irina Bokova et un secrétaire général Bandarine qui sont quand même des gens remarquables et qui essayent par tous les moyens d'alerter conscience mondiale, mais par contre ce qui nous manque ce sont des moyens financiers, ça c'est clair.
J'en parlais un petit peu tout à l'heure, j'avais une petite hésitation sur comment qualifier la nature de vos moyens. Bon, c'est pas des moyens énormes, mais disons que vous faites beaucoup avec peu. Et c'est un petit peu ça la philosophie aussi de votre action. Oui.
Quand on n'a pas grand-chose, on essaye de démultiplier et de faire en sorte que... C'est comme un plat, quand vous n'avez pas assez, que vous recevez des invités, vous essayez de le faire quand même bon, et puis d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit rassasié. Bien, c'est exactement ça, c'est d'essayer de partager avec des gens motivés, qui ont vraiment envie d'aider l'autre. C'est un peu quand même, c'est ce que ne comprennent pas les technocrates. C'est la coopération internationale, c'est avant tout... C'est pas que des échanges commerciaux, ça concourt à accompagner des échanges commerciaux, des choses comme ça parfois, mais c'est aussi aider l'autre au sein de la devise de la République française, qui je rappelle, égalité, liberté et fraternité. Et là, on est dans la fraternité.
Nous parlions de cette mosaïque de Tur Abdin, cette région du sud-est de la Turquie. Je crois que vous n'y êtes pas allé encore.
Non.
Est-ce que vous viendrez vous-même vérifier l'avancée des travaux ?
Oui, j'ai vraiment envie. Dès que les conditions le permettront de nous rendre à nouveau dans cette partie de la Turquie de l'Est, absolument, ne serait-ce aussi pour discuter avec les moines. J'aimerais beaucoup les rencontrer, parler avec eux, discuter avec les Araméens. Vous avez fait un magnifique livre il y a quelques années sur les Araméens et vous avez alerté l'opinion sur le massacre, un véritable génocide aussi des Araméens et pas des Arméniens, il n'y a pas que les Arméniens. Et je crois que cet endroit du monde rappelle qu'il y a des choses importantes sur une route de pèlerinage, parce que ce monastère, il est sur une route de pèlerinage. Et dans un très beau livre que je recommande en dehors du vôtre, puisque vous racontez aussi cela, il y en a un autre qui a été écrit il y a longtemps par un auteur britannique qui s'appelle Monsieur William Dalrymple, À l'ombre de Byzance.
Qui a été édité en français, traduit.
Édité en français, et qui raconte justement l'odyssée d'un moine au 5e siècle. Et en 1995, ou un peu moins, en 92, je ne sais plus, mais l'odyssée de quelqu'un qui va sur les mêmes lieux. Qu'est-ce qui a changé par rapport au 5e siècle ? Donc les auditeurs pourront un peu mieux connaître ces monastères chrétiens, cette route de monastères chrétiens.
Est-ce que vous avez été tenté vous-même de suivre des routes anciennes de cette manière-là ?
J'aurais beaucoup aimé personnellement me promener. C'est des Saint-Jacques-de-Compostelle bis que les Occidentaux ne connaissent pas. Passant par Éphèse, je suis allé à Éphèse. Je voulais absolument aller à Éphèse, vous savez pourquoi ? Parce que Éphèse, on dit que la Vierge... Marie aurait vécu à Éphèse, c'est une hypothèse. Moi, j'ai beaucoup aimé Éphèse parce que malgré la disparition de la religion chrétienne dans cette partie de la Turquie, il reste quelque chose du culte marial qui est diffus localement.
Et d'autres endroits peut-être, en Anatolie ou en Arménie, dans le Caucase?
En Arménie, j'y suis allé. En Arménie, c'est... Alors, cette Arménie-là, c'est une Arménie un peu complexe, parce que c'est pas l'Arménie de mes ancêtres. Donc, j'ai découvert avec intérêt une forme d'architecture de XXe siècle, des paysages extraordinaires. Les paysages du Mont Artsakhat, c'est magnifique. On voit aussi le Mont Ararat qui est côté turc. Je suis allé aussi à la frontière turco-arménienne où j'ai pu apercevoir les ruines d'Ani. Ani étant d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial depuis le dernier comité d'Istanbul. Et on se retrouve là dans quelque chose de saisissant et de pouvoir circuler dans toutes ces routes d'Arménie où l'histoire est partout et où, je dois dire, les soviétiques avaient fait un travail remarquable de restauration à la fois des temples romains, mais aussi à Garni, un très beau temple romain, mais aussi des églises des 9e, 10e, 11e siècle. Là, on vit avec l'histoire.
Bruno Favel, quelques mots sur la Syrie, quand même, ce patrimoine exceptionnel qu'il faudra bien reconstruire un jour. Est-ce que la France aura sa place dans ce...
Vous savez, la Syrie, je suis très triste parce qu'on avait travaillé il y a quelques années sur un magnifique dossier dont je vous avais parlé, qui est les villages antiques du nord de la Syrie. Sénateur Dauch était magnifiquement mobilisé avec ma collègue Francine Dorgeval aux affaires étrangères. Et puis, la guerre a éclaté, la guerre civile. On a quand même inscrit au patrimoine mondial les villages antiques du nord de la Syrie, donc avec une expertise française et syrienne. Il y a un homme extraordinaire en ce moment à Damas qui s'appelle Mahmoud Abdul Karim, qui est d'origine arménienne comme moi, converti à l'islam.
Que fait-il ?
C'est le directeur des antiquités. C'est le monsieur qui essaye de restaurer tous les monuments historiques de Syrie, qui tombent les uns après les autres, qui paye encore les rares fonctionnaires syriens dans les zones contrôlées par Daesh. Et cet homme, dont le grand-père a été trouvé par un Kurde sur une route, après le génocide de 1915, m'a parlé de ses racines arméniennes, mais aussi de ses racines musulmanes, puisque c'est un Arménien d'ascendance maintenant, mais qui est musulman. Donc c'était tout à fait intéressant, et ça a privilégié chez nous une relation amicale, et je le salue si un jour il m'écoute.
Nous étions avec Bruno Favel ce matin. Je remercie pour la réalisation de cette émission Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Philippe Palares au son. Merci.